Bonsoir et bienvenue pour la 10e émission de S'étirer par les oreilles. À la technique Willy, bonsoir Willy. Notre invité ce soir est Frédéric Chiron.
Bonjour.
Bonsoir Fred. En fait, si tu veux, on est le soir.
D'accord. Hein ?
Alors Fred, dis-moi un petit peu, qui es-tu ?
Je suis une personne complètement singulière, pas du tout normale et complètement anodine, totalement invisible. Voilà ce que je voulais dire, je suis relativement lâche et j'ai très peur quand un grand monsieur s'avance vers moi en général.
Ah, un grand monsieur de quelle taille ?
De plus d'un mètre 80, puisque je fais 1m80, alors les petits c'est plus facile, mais il faut se méfier, il y a des petits qui sont très méchants.
Aussi, oui.
Suivez mon regard.
Alors dis-moi un petit peu Fred, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je fais plein de choses.
Ouais.
Alors d'abord je travaille pour l'État, c'est-à-dire en gros pour vous qui payez la TVA et qui payez beaucoup d'impôts, c'est vous qui me payez, je suis fonctionnaire.
D'accord, et ça consiste à quoi ce métier de fonctionnaire ?
À observer les marchés agricoles et notamment ceux des fruits et légumes pour en tirer des statistiques.
Alors quels fruits et quels légumes ?
Alors moi je suis un spécialiste de la tomate, de la salade et de la courgette.
La courgette se porte bien en ce moment ?
La courgette se porte pas trop bien parce qu'il fait très froid, mais elle est très chère quand elle vient d'Espagne, c'est toujours pareil, elle est toujours plus chère quand elle vient d'Espagne que de France, c'est très curieux.
Ouais, il doit y avoir une raison à ça.
Ben, c'est parce qu'il y en a moins.
Il y a moins de courgettes en France.
Il y a moins de courgettes en France. C'est assez terrible à dire, mais il y a moins de courgettes en France.
Alors dis-moi un petit peu, tu vis ici dans le Vaucluse.
Oui.
Depuis combien d'années ?
Depuis toujours.
Depuis toujours.
On trouve mes traces au néolithique environ. Je dis néolithique, c'est peut-être plus vieux que ça.
C'est peut-être plus vieux que ça. D'accord. Oui, il y a un petit côté néandertal en fait.
Oui, on me le dit à cause de mes sourcils, là, oui, c'est vrai, et des poils que j'ai sur le nez et sur les oreilles.
Et les ongles aussi des pieds.
Et les ongles des pieds, oui, ça tu le sais très bien.
Ça je le sais très bien pour avoir zoomé quelquefois dessus.
Oui,
ça Fred, on est amis depuis une dizaine d'années tous les deux.
Tout à fait.
On s'est rencontrés sur des tournages, tu as été le premier acteur avec qui j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler. Tu es dans mon cœur, je t'aime vraiment, tu es un peu le Néandertal de ma vie quelque part.
Merci.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette région où tu vis depuis plusieurs millénaires ?
C'est une belle région, mais elle change beaucoup. Il y a beaucoup de maisons qui poussent à droite et à gauche, surtout autour des villages. Il y a moins de campagnes, il y a plus d'Allemands, il y a plus de Suisses et il y a moins de gens d'ici. C'est un peu la vie de tout le monde, d'ailleurs, dans le monde, peut-être.
C'est bien quand même.
Oui, c'est bien parce qu'il y a des gens sympas, des gens qui sont pas d'ici, mais que j'aime bien quand même. Voilà.
Et dans cette région, est-ce qu'il y a des endroits particuliers que tu apprécies plus que d'autres ?
Ah ben, il y a plein d'endroits que j'aime bien. Moi, j'aime bien le Thor parce que j'y suis né et que mes aïeux du Néandertal, ils sont nés également. J'habite au pied d'une colline qui s'appelle la colline de Touzon avec un beau château et j'y vais toutes les semaines avec mon chien promener.
Il y a une grotte d'ailleurs.
Et il y a une grotte, oui, il y a une grotte toute petite mais qui est très intéressante, c'est la grotte de Touzon.
D'accord, et dans cette grotte, il vaut mieux y rentrer du pied gauche.
Il vaut mieux y rentrer du pied gauche et moi j'ai un souvenir extraordinaire de cette petite grotte, c'est celle d'un guide qui comparait toutes les stalactites et les stalagmites et autres protubérances des plafonds et du sol à des organes humains un peu sexués comme des phallus ou des seins.
D'accord, très bien.
À l'âge de 8 ans, vous voyez, ça m'a marqué.
Tu as voyagé un peu dans ta vie, dis-moi où tu es allé.
Ah, je suis allé au Maroc, je suis allé en Hongrie, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Espagne, j'ai fait à peu près un peu partout à l'Europe, mais il y a très longtemps, maintenant je voyage plus.
Tu avais fait l'Interrail, tu avais voyagé à l'Interrail, non, tu n'avais pas fait ça.
Ah non, je n'ai pas fait ça, moi je suis allé à Nancy pendant 2 ans faire un stage pour devenir fonctionnaire, et là c'est vrai que je prenais le train de nuit, toutes les nuits, c'était assez extraordinaire. Les gens qu'on rencontre la nuit dans les trains, c'est quand même assez étonnant, hein. La France profonde, c'est vraiment génial.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ces rencontres que tu as fait dans les trains ?
Complètement fou, parfois dangereux, la misère, ouais, voilà, la misère, bon, on peut en parler, mais c'est vrai que la misère est très présente en France, et surtout dans des grandes villes.
Ouais. Et ça, ça te touche particulièrement ?
Oui, moi je suis quelqu'un de plutôt à gauche, enfin bon, à gauche je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais en tout cas je suis plutôt dans l'empathie avec les gens, donc ça me fait de la peine quand je vois des gens qui ont du mal à manger, à vivre, à s'habiller, à se loger, etc., etc.
Alors on parle de la région, on parle de la France, et si tu devais aller vivre dans un autre pays, dans quel pays aimerais-tu vivre ?
Un Absurdie peut-être.
Un Absurdie ?
Oui, chez les Shadok.
Pourquoi chez les Shadok ?
Parce que tout est simple, il y a les méchants et les gentils, et les Shadok sont dans l'absurde, ce qui nous ressemble un peu aussi. Non, je dis des bêtises, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien, évidemment, vivre au bord de la mer, avec des palmiers, des cocotiers, des bêtes vahinées, avec ma femme quand même. Et enfin, voilà, aller pêcher, regarder des tortues se balader dans l'eau, des poissons pilotes, des poissons clowns, et la chaleur et la tranquillité, et rien faire du tout de la journée. Voilà le pays où j'aimerais vivre. C'est vrai, soyons sérieux.
Un pays de cocagne, quelque part.
Un pays de cocagne, comme on dit, ouais. Hein? Ouais. C'est vrai, un pays de cocagne, où tout serait simple. Où on n'aurait pas besoin de travailler pour vivre, mais juste respirer.
Et l'endroit où tu aimerais le moins vivre ?
Ah, je sais où, il y a plein d'endroits où j'aimerais vivre.
La Corée du Nord ?
Alors la Corée du Nord, assez intéressant. Les choses aussi là-bas sont très simples. Il y a un chef et puis il y a les autres. Et puis des gens qui ont peur du chef. Non, j'aimerais pas aller en Corée du Nord.
Non, c'est pas terrible.
Non. Hein? En plus, il paraît qu'il y fait froid.
Il paraît. L'hiver. C'est la voilà. Corée du Nord.
C'est la Corée. Oui, contrairement à la Corée du Sud, où il fait plus chaud.
Donc, tu m'as dit que tu aimerais vivre dans un pays de cocagne. Mm-hmm. Pourquoi un pays de cocagne pour
Ah ben pourquoi? Parce que franchement, se lever tous les matins pour aller travailler, c'est quand même pas humain. Hein, l'humanité, c'est quand même avoir conscience de soi et donc prendre le temps de se regarder, de s'apprécier, de s'aimer et d'aimer les autres. Hein. C'est important d'aimer et les autres, c'est encore plus important que d'être aimé, je crois.
C'est sûr, c'est certain. Et comment pourrait-on aimer les autres sans s'aimer soi-même ?
Exactement, mais c'est le fond du problème, c'est ce que je voulais essayer de dire. C'est-à-dire que c'est encore plus primordial d'aimer que d'être aimé. Être aimé, c'est bien, mais aimer les autres, c'est encore mieux. Camus et Gary disaient exactement la même chose. Oui, tu vois, je lis de temps en temps.
Oui, tu es cultivé, ça c'est intéressant.
Voilà, oui, je suis cultivé, je travaille dans l'agriculture.
Oui, ouais, c'est peut-être pas un hasard.
Non, voilà, je crois que c'est Agri qui s'est posé sur cul. Pardon.
Il faut cultiver son jardin, donc.
Alors, il faut cultiver son jardin, mais il faut quand même regarder à l'extérieur. Il ne faut pas rester dans le Voltaire. Il ne faut pas rester dans le Candide qui ne veut plus voir le reste, parce qu'il ne peut rien faire contre le reste. Tout arrive sans qu'on le veuille vraiment. Et cultiver son jardin, c'est oublier tout ça. Oui, c'est bien de cultiver son jardin, son propre jardin intérieur.
Oui, c'est sûr que ça fait énormément de bien. Tu pratiques à titre, je dirais, particulier la culture de tomates et de courgettes. C'est quelque chose qui t'intéresse ?
J'ai eu peur un instant si je le mot pratique. Alors oui, j'ai un petit jardin tout rond dans lequel je fais pousser des tomates. Évidemment, c'est mon métier, donc j'adore ce produit. Non, sérieusement, j'adore beaucoup ce produit. Je trouve que c'est la meilleure chose qui nous soit venue de l'autre continent. Il y a plusieurs centaines d'années.
La tomate qui est un fruit.
La tomate qui est un fruit, tout à fait. Qu'on mange comme un légume, mais qu'on peut manger sucré. Hein. On peut le manger de toutes les manières, mais c'est un fruit, hein, botaniquement parlant. C'est-à-dire que c'est l'ovaire, hein, pour explication, c'est l'ovaire qui grossit. Voilà, contrairement à d'autres fruits qu'on estime être fruits, alors que là, non, c'est pas le fruit, c'est pas l'ovaire qui grossit, c'est l'enveloppe autour du fruit.
D'accord. Et ça te plaît de faire pousser tes légumes et de pouvoir les cuisiner et de les offrir à tes amis qui viennent les déguster.
Oui, ben on peut pas répondre non à ce que tu dis. Ça me plaît de manger, ça me plaît de les offrir, ça c'est vrai.
Ouais.
Oui, et de les regarder pousser, bon ça c'est une autre histoire. C'est long, bon. C'est lent.
Est-ce que cette idée de cultiver des fruits, d'être proche de la nature, c'est quelque chose qui te parle ?
Oui, je ne suis pas assez près de la nature et c'est quelque chose que j'aurais envie de faire plus, hein, être près de la nature. Mais c'est pareil qu'aller être au bord de la mer, sous un cocotier avec du soleil. C'est-à-dire, c'est vraiment apprécier ce qu'il y a autour de toi sans trop chercher. Après, la nature, je crois qu'elle s'en fout un peu de nous. Hein.
Oui, il y a des chances. Et cette idée d'être un petit peu en autarcie, c'est quelque chose qui te plairait ?
Oui, je regarde beaucoup les émissions sur l'autarcie, d'ailleurs en Alaska et tout ça, j'adore ça. Je suis très enfant avec tout ça, moi. J'aime bien les gens qui se débrouillent tout seuls. Mais moi, j'en serais pas capable.
Pourquoi ?
Parce que je suis trop feignant, je vous l'ai dit au début. Je suis un peu lâche, je suis un peu feignant.
Mais pourtant, tu aimes couper du bois.
Alors, j'aime couper du bois, ça fait passer l'agressivité, ça chauffe. Le bois chauffe trois fois, hein, une fois que vous l'avez coupé, hein, que vous l'avez mis en rondin, une fois que vous le fendez, et une fois que vous le mettez dans la cheminée, donc ça fait bel et bien trois fois. Bois est très intéressant, ça chauffe trois fois. Mais on voit que même le bois à Paris pollue. C'est assez désespérant.
Non, pourquoi il pollue à Paris ?
Ben parce que ça fait, tu sais pas, tu es pas au courant.
Non. Absolument.
Il paraît qu'il y a plein de cheminées dans les appartements parisiens qui se chauffent au bois. Les gens se chauffent au bois. Alors je sais pas à quel bois, où ils vont chercher.
Le bois de Vincennes.
Ouais, voilà. Ils vont sûrement au bois de Vincennes. On imagine l'objectif de tout ça. Mais globalement, ça fait une espèce de fumée autour des Parisiens. Et ma fille est à Paris en ce moment. Et c'est très dur. On respire très mal. Et les cheminées sont mises en cause à ce sujet. Donc rien n'est blanc, rien n'est noir, hein, tout est un peu compliqué.
Alors l'idéal, ça serait peut-être d'avoir une petite maison dans les bois. Et dans cette petite maison dans les bois, tu pourrais avoir ta cheminée, tu pourrais couper du bois, tu pourrais faire pousser tes tomates et vivre quelque part un petit peu en autarcie.
Ouais.
Ça te plairait, cette idée-là?
Ouais, ça serait quand même un peu emmerdant au bout du monde.
Tu crois?
Ouais, quand même. Moi, j'aime bien les choses modernes aussi. Hein. Moi, il y a un grand écran là dans le studio. Je vois l'heure, 10h33, donc c'est bien le soir. Hein, on est bien d'accord.
22h33,
c'est bien le soir. On est bien d'accord. Mais vivre sans tout ça, non. Moi, moi, j'aime bien les choses modernes. Hein, j'aime bien les trucs pratiques. Hein, j'aime bien les frigos. J'aime bien les machines à laver. J'aime bien le tout ce qui rend la vie plus facile aussi. Donc, couper son bois, mettre son bois dans la cheminée, regarder le bois disparaître petit à petit en fumée. Oui, mais alors au bout d'un moment...
Est-ce que tu aurais pu vivre dans le Grand Ouest à l'époque des cow-boys, etc.?
Ah non, absolument pas.
Ah bon?
Oh non.
Et avoir une petite maison dans la prairie, ça t'aurait plu?
Alors ça, c'est différent.
Bon, bah écoute, on va introduire ça.
Là,
on se retrouve de suite après.
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
Est-ce que Fred Ingalls, c'est toi?
Non, mais tu m'as vraiment touché avec ce générique, parce que c'est un des rares feuilletons que je suis depuis l'âge de 8-10 ans. Je l'ai découvert par hasard à la télé, on avait deux chaînes à la maison. Sur la première, j'avais je ne sais plus qui, mais sur la deuxième, il y avait La Petite Maison dans la Prairie. Et chaque fois que je regarde ce feuilleton, je... C'est dur, là, franchement. Tu n'aurais pas dû passer ce...
C'est quelque chose qui te touche. Alors dis-moi pourquoi ça te touche.
Je sais pas.
Parce qu'il y a de quoi en parler des heures avec toi. On a souvent abordé le sujet. Et La Petite Maison dans la Prairie.
Tous les aspects me plaisent.
Marie, Laura.
Il y a des grands mystères aussi. C'est quand ces gens font-ils l'amour? Ils sont dans une maison où le lit est juste à côté des enfants en dessous. Ils font comment pour faire des enfants?
Des coins de nature avec des buissons.
Voilà, ils font l'amour dans la nature.
Tu crois?
Je crois que c'est ça.
C'est peut-être ça le grand secret.
C'est ça le grand secret, ouais. C'est ça. Il faut voir quand même que les personnages, enfin, tous les personnages, ceux qui ont interprété ces personnages ont eu une drôle de vie derrière. D'ailleurs, on a eu la blonde, là, vous savez, la méchante.
Oui, Nelly.
Nelly, elle est passée dans la région, je crois. Comme elle faisait du théâtre, ça lui a servi, quoi, de faire.
C'est celle, finalement, la méchante, c'est peut-être celle qui s'en est le mieux sortie.
Oui, mais ça, c'est toujours pareil. Un personnage, c'est pas la personne. Je crois qu'il y en a une qui est décédée d'une overdose. Il y en a un autre qui est devenu un ange après dans une comédie feuilleton aussi qui était pas terrible. Les autres, je sais pas.
Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette série? Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur.
Ah, c'est le côté familial. Moi, je suis d'origine rurale où la famille, c'était très important, où on était tous autour du repas le soir, après les travaux des champs, enfin tout ça, quoi. Donc c'est quelque chose qui ressemblait peut-être à ma vie, dans lequel je pouvais me projeter facilement.
Est-ce que tu étais amoureux, petit, d'une des deux ou trois filles? Enfin, peut-être pas la troisième, c'était jeune, mais ouais. C'était une... Marie?
Ah bah oui.
Marie?
Bah oui.
Marie
bah,
qui est devenue aveugle dans la série?
Oui.
Et qu'est-ce que tu aimais chez Marie?
Tout.
Tout?
Tout. Tout, c'est une fille qui est peut-être plein de promesses, et puis qui est devenue prof malgré le fait qu'elle soit aveugle. Et puis quand le chien a disparu, il faut voir comment elle a réagi. Et puis,
comment elle a réagi?
Elle était désespérée, mais en même temps, elle avait les pieds sur terre en donnant des consignes pour essayer de retrouver ce chien perdu dans la mine.
Ils l'ont retrouvé?
Oui.
Ça rien sauf?
Oui.
D'accord.
Oui, vous voyez, c'est...
La petite maison dans la prairie, c'est une sorte de philosophie de vie pour toi ?
Non, soyons sérieux, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est quelque chose dans lequel on peut se projeter. Si on était dans ce petit village où il faut aller à la messe tous les dimanches, ce qui était mon cas quand j'étais petit, c'était obligatoire d'aller à la messe. Donc là,
tu allais à la messe quand tu étais...
Oui, j'étais même enfant de cœur.
Ah ouais, tu m'avais caché ça.
Ah, ouais. J'ai même cassé le grand cierge à un moment donné.
Pourquoi ? Alors, un geste de rébellion ?
C'est peut-être quelque chose de freudien finalement, mais en tout cas,
c'est rapport avec les grottes de Toussaint.
J'ai bougé le grand cierge, il est tombé en mille morceaux. Alors après, on l'a réparé comme ça et je pleurais. Alors le curé, il m'a vu pleurer, il m'a même pas engueulé, il m'a dit mon pauvre gars, mais c'est pas grave, ça arrive de faire des bêtises, etc. Oui, j'étais très tendre la joue gauche, la joue droite, je sais plus laquelle. Enfin voilà,
ou les deux.
D'un côté ou les deux. Voilà. Enfin, ça m'a un peu passé quand même. Hein. Je voyais les gens, l'individu qui allait à la messe et leur réaction et leur activité dans la semaine, j'étais un peu perturbé, quoi.
Donc, t'as eu une belle enfance ?
Oui, on peut dire que j'ai eu une belle enfance, une maman aimante, un père dur mais juste, des frangins parfois un peu père aussi, mais juste également, qui m'ont ouvert la voie sur certaines choses. Un frère qui était musicien puis qui est devenu commercial, un autre qui est devenu fonctionnaire aussi comme moi, mais aussi qui fait du compte. Là, il joue ce soir au Trac d'ailleurs, enfin c'est pas ce soir puisqu'on n'est pas le bonjour, mais enfin qui fait des comptes. Gilbert, voilà. Et une sœur qui a été ma deuxième maman, la pauvre, alors elle a souffert. Pendant les années yéyés, au lieu d'aller s'amuser dans les booms, elle devait garder. Elle devait me garder dans le landau. Je crois qu'elle a aimé ça, parce que c'était les femmes, c'était comme ça. D'ailleurs, je vous lirai un petit truc sur les femmes, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais voilà, non, une enfance heureuse avec donc une sœur et deux frères, et un papa et une maman qui m'ont beaucoup aimé. Donc, et on était dans le milieu rural, donc peut-être cette projection sur la petite maison dans la prairie, c'est quelque chose que j'aimais bien.
Ça se sent qu'ils t'ont aimé.
Oui. Ouais. Oui, moi j'ai.
Alors justement, dans ton enfance, quel est ton plus beau souvenir ?
Mon plus beau souvenir.
Là, comme ça, là.
Ah ouais, mais alors là, c'est difficile.
Un
moment qui m'a marqué. Oh là là, tu me prends un peu au dépourvu. Il y a plein de moments qui m'ont marqué quand. Il y a l'histoire du parrain. Ouais, j'avais un parrain.
Ah, vas-y, raconte-nous.
Un parrain belge qui nous envoyait des colis avec plein de cadeaux dedans. En fait, c'était ce qui restait de l'après-guerre. Voilà, ce qui s'est resté de l'après-guerre. Il nous envoyait plein de cadeaux et on recevait ce colis comme ça. Et ce monsieur, c'était mon parrain. Il était belge. Il s'était rencontré à Lourdes avec mes parents, tu imagines. Voilà, le voyage de noces à Lourdes. Et ils se sont rencontrés. Et depuis, voilà, il nous envoyait des colis chaque fois.
Est-ce qu'il y a un cadeau en particulier qui t'avait marqué plus que d'autres?
Non, aussi des BD. Ah oui, quand même, ouais, les BD belges. J'ai connu les BD belges grâce au colis de mon parrain. Ouais. Les Spirou, les Tintin, tout ça, ça m'a, les pilotes par la suite quand j'étais un petit peu plus grand. Voilà, ça, la BD, la bande dessinée belge, quelle histoire.
Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui a marqué ton adolescence?
Un livre, oui. Oui, alors ça, c'est un petit peu plus sérieux, mais c'est toujours aussi dans le milieu rural. C'est Les raisins de la colère de Steinbeck.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ?
Oh, c'est l'histoire, la révolte. Être révolté, parce que moi, j'étais révolté par la situation des paysans qui était de plus en plus dure, qui s'est toujours de plus en plus dure. C'est peut-être pour ça aussi que je travaille aussi au ministère de l'Agriculture. On est sérieux, là. Ça fait
mais
chier.
Non, mais non, on n'est pas sérieux.
Voilà. Et si tu veux, voilà, ces raisins de la colère, c'est une histoire incroyable de gens défaits par les banques, qui sont obligés de prendre les routes pour aller ramasser des fruits dans un autre état, jusqu'à avoir plus rien, plus de voiture, plus rien. Ils se retrouvent sans rien, et ça finit quand même, il faut savoir, c'est un système mec, ça finit par une image incroyable d'une femme qui donne le sein à quelqu'un qui est en train de mourir de faim dans une grange sous la pluie. Alors là,
très symbolique.
Qui a écrit quelque chose aussi fort sur la misère? Je sais pas. En tout cas, Steinbeck, Les raisins de la colère, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille.
Est-ce que c'est la littérature qui t'a mené vers ta passion, qui est le théâtre?
Non, c'est le théâtre qui m'a amené à la littérature et à la philosophie. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein. J'ai fait des études techniques. J'aurais pu très bien passer mes dimanches à jouer au boule et boire des pastis et puis aller à la chasse le vendredi après-midi et puis aller au bordel les 31 du mois. Non, le théâtre, d'un de mes franchins m'a ouvert les portes et il y avait de la lumière. Je suis rentré avec lui.
C'est ton frère qui t'a poussé.
Voilà, qui m'a poussé, qui m'a montré ça. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Je pense qu'il y avait une idée aussi de se montrer,
Ce qui est peut-être aussi vrai quand j'étais enfant de cœur. On était quand même sur la scène, hein, on nous regardait, les petits enfants, comme ça, j'aimais bien le fait de regarder et parfois de participer, là, de faire des gestes un peu symboliques. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Non, c'est vrai, c'est surtout que les comédiens, il faut savoir que, quand même, ils doivent cultiver leur ego.
Oui.
Voilà.
Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué.
Et le maîtriser.
Quand on a commencé à travailler un petit peu ensemble, c'est justement ça. C'est-à-dire que tu me disais, vas-y, dirige-moi, mon ego, quelque part, je m'en fous. Au contraire, on est là pour avancer. Ça, ouais. Ça m'a vraiment marqué quand tu m'as dit ça.
Alors, c'est toujours le combat. Le comédien doit toujours se battre avec son ego. C'est-à-dire qu'il doit respecter l'auteur, il doit respecter le mot. Et en même temps, faire force de présence. Et faire force de présence, c'est faire appel à soi. C'est s'aimer, et c'est maîtriser son corps, c'est maîtriser son espace, son espace dans l'espace. Donc l'ego est très important. Mais en même temps, il faut le maîtriser parce qu'il peut vous faire dire des conneries sur des textes au départ qui n'en disent pas.
Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en fais de cet ego sur scène?
Alors, qu'est-ce que j'en fais de mon ego sur scène? Ça, c'est... Je savais pas
t'étais
qu'on était...
quand même hyper facile, en fait, à diriger. Tu étais hyper...
Alors, ouvert, on dit souvent que je suis une éponge, ouais. Alors, dans le... Dans... Vous savez qu'il y a une grande formation de théâtre dans les années 1800, fin 19e, hein, c'est l'école russe, et notamment l'école, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Enfin bref, c'est la première leçon qu'on donne à un comédien, c'est de dire tu peux pas être à deux endroits en même temps. Tu peux pas être sur scène et en train de regarder. Donc si tu es sur scène, eh ben tu fais confiance au regard qui est en face, dans les limites du tolérable, évidemment. Hein, quand on vous dit une connerie, il faut pas se laisser faire. Mais globalement, il faut être éponge avec ça et travailler avec ça. C'est ça l'art du théâtre, peut-être un peu aussi, quoi. C'est être intelligent parce qu'il faut être intellectuel. Hein. Les gens qui disent qu'il faut pas jouer de manière intellectuelle, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il faut réfléchir. Hein. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on raconte.
Bah, y a un axe entre la légèreté et la profondeur. C'est souvent là que se situe un peu la vérité, parfois, non?
Oh, que c'est bien dit, ça. Un axe entre la légèreté et la profondeur. Ah ben là-dessus, franchement, tu m'étonnes, Thierry, bravo.
Excuse-moi.
Ouais, non, c'est, je vais partir avec cette phrase dans la tête toute la journée, cette nuit, peut-être demain.
Alors, ouais. Tu fais du théâtre, mais tu fais aussi pas mal de lectures, et tu es venu aujourd'hui avec un texte.
Avec plusieurs textes.
Avec plusieurs textes. Lequel souhaites-tu nous lire en premier?
Puisqu'on parlait des femmes tout à l'heure, oui. Je vais vous en lire un petit premier.
Un premier sur les femmes.
Un premier sur
et
les
après,
femmes.
Et après, on écoutera un autre morceau que tu nous as conseillé d'écouter. Alors, le premier texte sur les femmes, il est de...
Alors, je vais pas dire le nom de l'auteur parce que je ne le connais pas.
D'accord.
Je vais vous laisser découvrir et puis je vous dirai d'où sort cette magnifique poésie sur les femmes.
Allez, on
et
t'écoute.
C'est magnifique.
À toi.
Ah, madame. Ah, madame, je lis dans vos pensées, et vos pensées disent « Ah, si j'avais le temps, je lirais, je sortirais, je visiterais, je marcherais, j'écrirais, je... » Madame, ne perdez plus de temps avec des « si ». Vivez avec votre temps et comme toute femme moderne, reniez au maximum sur ces corvées quotidiennes pour élargir celui de votre meilleure part. La super cocotte Seb cuit en quelques minutes les petits plats mitonnés de nos grands-mères. Elle ne vous laisse que la joie de régaler les vôtres, de pouvoir les mieux connaître, les aimer mieux, bref, d'être vraiment vous, la maîtresse de maison, raffinée, détendue, heureuse d'avoir donné à sa vie le confort, Seb. Et les vacances, oui. Vacances totales, idéales, idylliques, vacances gastronomiques et pourtant, oui, économiques, oui, si vous emportez avec vous le compagnon indispensable du camping, du caravaning, du pique-nique, l'auxiliaire providentiel en chalet, en masse, en bungalow, la super cocotte Seb, elle est là, toujours prête à réussir en un temps record sur la plus rudimentaire source de chaleur des petits plats mijotés, comme à la maison. À vacances, au grand air, oui. Nourriture saine, oui, ensoleillée, mais vite préparée. Et votre plaisir, madame, votre plaisir de cordon bleu, c'est de réussir sans cesse des recettes nouvelles, de varier chaque jour vos menus, d'attendre le
Un gourmand qui précède le silence gourmet qui suit, tandis que chacun déguste, savoure. Avec votre super cocotte Seb, vous passerez tout de suite avec succès votre brevet de cuisinière 3 étoiles. Avec vous, avec elle, la cuisine cessera d'être monotone pour devenir passionnante.
Merci Fred, merci beaucoup. On vient d'écouter ce magnifique texte de Monsieur Seb. Ça, c'est ce qui se passe dans les cuisines des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe sous les jupes des femmes ?
RTVFM.
Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elle, affière, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
C'était donc Alain Souchon, sous les jupes des femmes. Fred, qu'est-ce qui se passe sous les jupes des femmes ?
Les jupes des filles. C'est les jupes des filles, le titre.
Les filles ?
Mais, ouais,
ah, là, j'ai pris les femmes.
C'est important, c'est pareil. Bon, mais ouais. Voilà, c'est les jupes des filles.
Les filles qui vont devenir
alors,
les femmes.
Alors, qu'est-ce qui se passe sous les jupes des filles ? On aimerait tous le savoir, nous, les garçons, tout le temps, mais elles ne nous le montrent pas, elles nous le dévoilent de temps en temps.
Est-ce
mais...
que tu crois que les femmes nous écoutent ?
Moi, je crois que les femmes nous aiment beaucoup. Que c'est une grande chance. Et moi, j'avoue que je suis heureux de me réveiller tous les matins à côté d'une femme. Et j'ai beau inverser la situation, je ne me vois pas me réveiller à côté d'un homme.
Même avec moi ?
Je suis désolé, Thierry.
Oh, Fred,
non.
Tu me déçois.
Non. Moi, je me réveille à côté de quelqu'un mal rasé le matin et qui sent le fauve.
Je m'en raserai pour toi, tu sais.
Oui, je sais, mais non. Non, j'ai beau chercher, j'ai comme tout le monde, j'en ai notre part d'homosexualité, hein, quelque part cachée, hein, peut-être au tréfonds de notre enfance, peut-être au tréfonds de notre avenir aussi.
De nos racines néandertaliennes.
Non, je crois pas. En vrai, c'est un truc, j'ai du mal à imaginer deux néandertaliens se regarder dans les yeux et dire mal. Hein,
très romantique.
Je t'aime. À quoi que des proches avaient dit, hein, c'est une plus belle parole, ça. Hein, c'est le vrai amour. C'est deux ramasseurs d'ordures à Paris, derrière le camion, qui s'arrêtent et se regardent tendrement en disant « Je t'aime, Fernand ». Et l'autre répond « Oui, moi aussi, je t'aime, Henri ». Voilà. C'est le vrai amour.
Ce qui ne répond pas forcément à la question de ce qui se passe sous les jupes des filles.
Non, mais laissons le mystère. Laissons le mystère.
T'as pas deux, trois infos à nous donner?
Non, laissons le mystère. C'est leur affaire, leur jupe. Et quand elles les font tourner, ça nous fait tourner la tête, c'est très beau.
Et est-ce que tu penses qu'elles se posent la même question en ce qui nous concerne? Qu'est-ce qui se passe dans les pantalons des hommes?
Je pense qu'elles sont, peut-être qu'elles se posent les questions, mais elles ne le diront jamais. Ou alors, peut-être entre elles, ayant bu beaucoup de non, elles sont beaucoup plus petites que nous.
Là-dessus. Tu crois? Vraiment? Même entre elles?
Alors, entre elles, j'en sais rien. Ah, si elles sont entre elles, Moi, j'ai jamais mis de micro pour écouter. Non, elles parlent de sexe, évidemment, si tu veux dire ça. Les femmes parlent de sexe. Bien sûr, parce qu'elles nous aiment. Donc, c'est quelque chose dont elles sont obligées de parler, de partager. Et moi, mon mari me fait ça, c'est normal. Oui, bah, écoute, moi, non, il me fait pas ça, mais est-ce que c'est normal qu'il me fasse pas ça, lui? Ben voilà, il y a certainement des questions.
Est-ce que tu penses que dans la relation sentimentale, les femmes sont plus aguerries que les hommes? Beaucoup plus matures?
Je sais pas. Je ne sais pas si elles sont plus aguerries que nous. En tout cas, je les trouve plus fortes.
Plus fortes, c'est sûr.
Ah voilà. Ouais, ça c'est clair. C'est plus fort. C'est 2000 ans d'adaptation au fait d'être quand même
soumise.
La partie, une partie de l'humanité soumise. Hein, faut dire ça. Elles sont beaucoup plus fortes. Moi, elles m'étonnent. Par exemple, les chagrins amoureux chez les femmes, je trouve qu'elles gèrent mieux que les mecs. Quoi. Les mecs deviennent fous, quoi. Violents, cons.
Alcooliques.
Peut-être alcooliques, ouais. Bon, il y a des femmes alcooliques aussi. Mais non, je les trouve beaucoup plus fortes, beaucoup plus sereines avec ça. Nous, si on n'est pas dans la performance, tout ça, on n'est pas un vrai mec. Il faut bander, il faut avoir des couilles, faut faire le beau.
Mais c'est aussi quelque chose qu'elles réclament aussi, quelque part.
C'est
protection.
C'est très ambigu. Hein. Oui, bien sûr qu'elles aiment les hommes tendres, romantiques, mais elles aiment quand même les vrais hommes. C'est ce qu'elles disent, une partie d'elles. Mais je pense que là, elles ne sont pas toutes les mêmes aussi, les femmes. Elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des personnalités et un rapport à la relation avec l'homme aussi différente que peuvent l'être les hommes, d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il ne faut pas faire de grandes règles là-dessus. C'est chiant de faire des grandes règles sur le truc. Voilà, mais globalement, je les trouve plus fortes que nous. Ça, c'est à retenir, je crois. C'est vrai.
Est-ce que tu crois qu'elles nous aiment?
Oui. Oui. Ça, j'en ai la certitude. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un roman d'amour d'une musicienne dans la région, son roman d'amour qui s'appelle Starbé. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait un énorme amour des femmes sur les hommes et que son roman, c'est ça. Même si c'est aussi la liberté, et c'est aussi la difficulté d'avoir des relations sentimentales avec un homme qui avec lequel on n'est pas marié, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'elles aiment là, moi, c'est une grande découverte pour moi. J'en ai pleuré.
Toi qui es marié depuis peu, mais qui est avec ta compagne depuis quelques milliers d'années, quel est le secret pour faire durer l'amour?
Il faut faire bouillir la marmite tous les jours, quoi. Il faut s'entretenir.
Comment tu es au quotidien?
Au quotidien, il y a toujours des heurts, il y a toujours des différences d'appréciation sur les odeurs, sur les goûts, sur les parfums, sur la façon de s'habiller. Enfin, moi, je suis assez une catastrophe, donc là, il y a vraiment des tensions de ce côté-là, c'est vrai. Mais globalement, il faut, c'est pour ça que les femmes sont extraordinaires. Il suffit de les regarder avec amour, de leur faire un bisou dans le cou, et tout va bien. Voilà. Enfin, souvent. Des fois, ça va. Des fois, ça marche pas, mais globalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut entretenir ça tous les jours. Il faut leur dire qu'on les aime, je crois. Il faut être un petit peu tendre avec ça.
Ah oui, bien sûr, la tendresse, c'est super important.
Voilà. Il faut être tendre. Tendre et puis de temps en temps, montrer qu'on est un mec fort et qu'on sait soulever, et qu'on sait fendre des bûches, mais qu'on sait faire aussi la vaisselle et passer l'aspirateur.
Oui, voilà. Tout à fait. C'est tout un ensemble, quelque
c'est
part.
C'est tout un ensemble, à quelque part. Et puis parfois, leur dire qu'elles ont raison, même si on pense le contraire. Je pense qu'elles font pareil.
Oui, je pense. Je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu es un grand sportif, Fred.
J'étais un grand sportif. Alors là, vous ne le savez pas, hein, tous les deux, mais j'ai été un grand sportif. J'ai été champion du Vaucluse du 100 mètres d'eau. Et je suis descendu en dessous de la minute au 100 mètres nage libre, monsieur.
En natation, tu veux parler?
Oui, en natation. Bah oui. Pas en ski. J'imagine en ski sur les pentes du Ventoux.
C'est pour ça que je suis très surpris. J'imaginais que tu aurais pu.
Alors après, on me faisait nager des nages absolument atroces comme le papillon. Alors ça, c'est une nage atroce. Ouais. C'est un truc où c'est cardio. Tu meurs au bout du quatrième mouvement, sauf qu'il y a 200 mètres à faire. Ouais. Et puis on m'a mis aussi dans la compétition sur le fond, en 1500 mètres, 800 mètres. Ça, c'était très très long parce que regarder les carreaux du fond d'une piscine pendant à peu près 20 minutes, c'est long.
C'est long. Hein.
Ah ouais, c'est long.
Surtout qu'ils se ressemblent tous.
Voilà. Tout à fait. Oui, surtout qu'ils se ressemblent tous. Et puis c'est toujours pareil. Et puis il faut savoir que la piscine c'est assez on n'entend rien, hein. Quand on est dans l'eau, on n'entend rien, sauf quand on tourne la tête, hein, et pour passer le bras dessus pour faire le crawl, hein. Là vous avez une oreille qui sort, alors ça donne à peu près ce truc là. Ça, c'est l'ambiance d'une piscine un dimanche après-midi quand on a 14 ans et qu'on fait des entraînements 6 fois par semaine, 4 bornes par soirée. Et puis, au bout du tunnel, soit vous devenez champion, soit vous arrêtez tout de suite parce que c'est trop épuisant, quoi. Et là, j'ai arrêté tout de suite la natation parce qu'un jour, je me suis retrouvé dans une compétition à Carpentras, d'ailleurs, dans la grande piscine olympique, où il y avait un petit mec qui était 40 centimètres sous de moi. J'allais le bouffer, quoi. Sauf que c'était le champion de France et qui m'a mis 3 bassins dans la vue.
Choc psychologique.
Oui, là, sur psychologie, tu dis que tu t'entraînes, tu te crèves le cul et tu vois que ce petit machin, là, il est passé devant toi et tu n'as même pas vu ses pieds.
Donc, choc psychologique.
Choc psychologique, arrêt de la natation tout de suite.
Et de tout le reste.
Et de tout le sport. Ah oui, tout le sport. Bon, j'aime bien me faire quelques de ping-pong, les dames,
les échecs.
Non, la marche, enfin, je fais un peu de choses comme ça, mais ouais. Je suis pas du tout sportif.
C'est pas sportif.
Non, la compétition ne m'intéresse pas. La compétition, être meilleur que l'autre, ouais, ne m'intéresse pas.
C'est pas forcément que de la compétition, le sport.
Si, quand même. Ah, si, quand
avec
même.
Soi-même, alors.
Ouais, ou alors avec soi-même, quand on court tout seul, mais... tout seul, quoi.
Ouais, tout seul, c'est pas terrible, ouais. C'est sûr. On va écouter un titre que tu nous as amené.
Oui.
Je dirai le titre après. Ça me plaît, j'ai écouté ça tout à l'heure. Le titre commence maintenant. À tout à l'heure.
RTVFM à Carpentras sur le 102.2. We'll be right back.
C'était Orange Blossom, le titre Habibi. Fred, pourquoi ce titre ?
Pourquoi ce titre-là, j'en sais rien, mais en tout cas, pourquoi ce morceau ? Parce que je l'ai découvert un soir, à m'endormant devant la télé, ce groupe passait, et depuis, je les écoute très 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 régulièrement. Il y a un mélange jazz, comme j'aime beaucoup le jazz, c'est-à-dire vraiment sur des rythmes très poussés, très 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 tenus, et une voix du Maghreb magnifique, et l'utilisation aussi du moderne, quoi. On n'est pas que dans il y a ce mélange entre le moderne et la culture nord-africaine que j'aime beaucoup. Voilà.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la musique ?
Je crois que ce que j'aime le plus dans la musique, c'est que c'est éternel. Et que c'est pas définissable. Dans un roman, un des personnages qui a tout appris de la vie, très jeune, mais qui a tout appris, qui est devenu très très savant, très 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 jeune, c'est plus d'été de Margaret Yourcenar, de Duras, pardon. Et ce personnage dit à la fin, mais tu veux plus apprendre, dis non, parce que moi, finalement, le mathématique, tout ça, c'est un cercle fini. Mais par contre, la musique, peut-être, c'est infini. Voilà pourquoi j'aime la musique.
Parce que c'est infini.
C'est on est dans l'impalpable.
On est dans le rythme et dans la mélodie.
Les
deux se croisent et permettent d'ouvrir des portes.
C'est une des rares choses qui permet de transcender facilement. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les religions utilisent la musique, hein, ou les sons, hein, du Bouddha jusqu'au même nos amis catholiques sont dans le chant. Toutes les religions vont dans le chant, vont dans la musique, parce que c'est quelque chose qui élève l'âme, a priori, quoi. Qui élève un peu l'âme, quoi.
Alors Dieu dans tout ça.
Ah, Dieu.
Prévert en parle beaucoup.
Ah, Prévert a beaucoup de haine sur Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amour sur Dieu, parce que pour lui, Dieu est un prétexte à faire la guerre. Voilà, et il n'aime pas ça, la guerre.
Alors qu'il devrait être un prétexte, selon ses dires, enfin selon les dires des divers dieux, à plutôt faire l'amour.
Oui, et ou ben à donner de l'amour. C'est les hommes ne savent pas faire de. Je crois qu'ils savent pas faire de Dieu. Ils savent pas quoi en faire, donc ils en font. En fait, c'est le troisième élément. À partir du moment où vous parlez pour Dieu, on peut pas vous répondre grand chose en face. Quoi. Si c'est Dieu qui l'a décidé, notre discussion entre tous les deux ne va pas plus loin. Non, mais Dieu a dit que. Donc si Dieu a dit que, c'est forcément la vérité.
On se plie à ce qu'il a dit.
Et ouais.
Ouais, d'accord.
C'est un peu terrible.
Est-ce que tu es mystique un petit peu ou pas du tout ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Je sais pas. Pourquoi ? Je sais pourquoi je suis pas mystique.
Parce
pourquoi
qu'il y a quand même une dimension non, mystique parce que dans l'art.
Oui, il y a une. Non. L'art montre ce qu'on ne voit pas et essaye de transcender l'âme, ce que j'appelle l'âme, c'est-à-dire le tréfonds notre tréfonds de sentiments, notre réflexion, notre conscience, c'est ça pour moi l'âme. Et donc je suis pas mystique parce que je pense que l'homme se fait par lui-même. Sinon, on serait toujours dans les grottes. C'est lui qui s'est fabriqué. C'est lui qui s'est fait, quoi. Alors, on a mis des règles pour agencer tout ça. Et puis, quand on a vu que les règles étaient un peu compliquées, on a inventé peut-être le concept de Dieu pour dire attention, mais attention. Non, puis bon, Dieu aussi, c'est la mort. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? On espère qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, on
alors,
espère toi, qu'il y a quelque
toi,
chose de divin.
Toi, qui es plutôt rationnel, qu'est-ce qu'il y a ? On s'éteint de suite ? Après la mort,
je pense que c'est déjà pas mal, c'est qu'on redevient univers, c'est-à-dire que on est des poussières d'étoiles, comme on dit là, donc on redevient tout ça. C'est pas mal aussi. Et on fait partie de l'ensemble.
On renaît de ses cendres.
Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de renaître de ses cendres aussi. Hein. Je pense que le paradis est sur terre et qu'il faut le fabriquer sur terre. Beaucoup de catholiques pensent ça. Hein.
Est-ce que le paradis est dans la prairie ?
Et le paradis peut-être dans la prairie parce que tout est équilibré.
Avec
parce qu'on s'aime
un
tous.
Beau champ de coquelicots.
Voilà. Ouais. Et les petites toilettes en haut là, de la colline, des toilettes sèches, toutes propres, pas polluantes. Et puis voilà. Et puis le soleil, et puis la pluie, et puis le chien, et puis le côté kitsch est rassurant. Voilà. La maison de la prairie, c'est rassurant.
C'est rassurant.
Voilà, ça fait du bien.
Est-ce que tu as un rêve en particulier qui a marqué ta vie?
Alors j'ai un rêve. Alors je sais que j'ai un rêve qui m'a marqué parce que j'ai
fini. Il est récurrent ou pas, non ?
Oui, c'est un rêve récurrent, mais je retiens pas beaucoup les rêves. Pourtant, ce serait un travail intéressant, surtout en tant que comédien, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Mais j'ai deux rêves récurrents dont je me suis remémoré, j'en bafouille parce que là j'ai fait une petite thérapie. Beaucoup font des thérapies, ils le disent pas. Attention, il n'y a aucune honte à faire une thérapie.
Au contraire.
Donc, au contraire, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, là, on m'a posé la question sur le rêve. Et donc, moi, j'ai deux rêves récurrents. Alors, j'en ai un ça vient peut-être de la natation d'ailleurs, où je marche dans la rue et je me jette en l'air et en fait tous les gens nagent mais ne marchent pas. Mais on marche dans l'air, on nage dans l'air, tu vois là, et hop,
tout
on
le
se
monde
pose,
vole avec toi.
Voilà, et tout le monde, c'est-à-dire que pour se déplacer, hop, je me mets à plat ventre et hop, je me déplace en nageant dans l'air et on avance dans l'air. Alors, ça, c'est un des rêves récurrents. Et le deuxième rêve, c'est la petite souris. Vous savez, la petite souris, on vous donne, vous avez une pièce sous l'oreiller quand vous avez perdu une dent. Eh bien, moi, je vais rencontrer la petite souris une nuit. Mais le problème de la petite souris, c'est qu'elle est impalpable. On a beau lui serrer la main, c'est très énervant parce que notre main fond dans son image et on n'arrive pas à l'attraper. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui doivent dire qu'il est complètement taré.
Si je devais raconter les miens, je te garantis que...
Voilà, non, moi, voilà. Après, j'ai des rêves érotiques comme toi, hein, des fois. Mais non, mais c'est autre chose, quoi.
Ah oui, donc ça, vraiment que tu veuilles.
Non, moi, je veux dire, voilà, moi aussi.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde, on a des rêves où on fait de belles choses sensibles et intéressantes.
Très bien. Que penses-tu de la jeunesse aujourd'hui? Parce que sur RTVFM, c'est la radio à l'esprit jeune. Qu'est-ce qui t'inspire, les jeunes, aujourd'hui?
C'est l'espoir. Les jeunes, c'est l'avenir. Alors là, moi, tous ceux qui misent, c'était mieux avant. C'est chiant comme discours, quoi. C'était mieux avant quoi? On est maintenant, on est dans le présent, et le présent, c'est eux qui le tiennent, et c'est eux qui vont le tenir, c'est eux qui vont le fabriquer. On a besoin de cette jeunesse, elle est très importante. Oui, voilà, moi, par miroir, je dirais que la jeunesse est évidemment indispensable. Et ceux qui disent, les jeunes aujourd'hui, ils vont pas ça, mais regarde-toi, couillon, regarde qu'est-ce que tu faisais à l'époque. Voilà, moi je leur dis, lisez Monsieur Lévi-Strauss, pas le djinn, l'écrivain, l'anthropologue, Claude Lévi-Strauss, qui parlait qu'en fait, tous les vieux, comme ils sont plus dans le coup, ils disent que c'était mieux avant. Non. Les jeunes, c'est très important, et il faut leur faire confiance.
Ça t'inquiète pas trop, l'avènement du monde d'hyperconnect, des nouvelles technologies, les réseaux sociaux où tout le monde est ami sans se connaître?
Ouais, je sais pas, ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense que ça fait partie de l'ordre de l'histoire, qu'il va falloir s'adapter, que l'homme est capable de s'adapter. Après, il faut pas se faire blouser par tout ça, quoi. Voilà, faut pas se faire avoir.
Faut garder la tête froide.
Faut garder la tête froide et puis surtout pas se faire manipuler. Et aujourd'hui, Internet est une grande zone de manipulation, on le sait.
Des faits mercantiles, sans doute.
Tout à fait. Mais vous savez, les journaux dans les années 70, qui étaient tenus par un ou deux industriels, c'était aussi des choses qui manipulaient les gens. Donc
voilà, la différence, c'est qu'il y en a plus.
C'est qu'il y en a plus, c'est plus dissous dans le truc. Non, le seul risque qu'on a là-dessus, c'est la surveillance. La surveillance, c'est-à-dire, chaque fois que vous tapez sur Internet, il y a une mémoire qui s'inscrit, et peut-être qu'il y a des machines qui savent aller chercher cette mémoire pour vous cadrer dans telle ou telle chose. Voilà. Mais on est dans l'ordre de la manipulation.
C'est le Big Data qui a remplacé le Big Brother un peu.
C'est pas loin. Ça pourrait être pas loin. Utilisé par des mauvaises mains, ça pourrait être catastrophique.
À mon avis, c'est un peu le cas, oui.
Ouais, moi je pense pas qu'il y ait de grands complots.
Voilà. Non, pas forcément de grands complots, mais enfin, c'est utilisé en tous les cas.
Tu me fais chier avec tes questions là, elles sont lourdes. Moi, je me fais chier, moi, ces questions là. Oui, il faut faire attention, mais en même temps, c'est là, et puis c'est jeune, et puis il faut avancer, et puis c'est. Non, c'est des outils qui peuvent être magnifiques. Magnifiques.
Sans aucun doute. Ton plus gros fou rire?
Mon plus gros fou rire. C'est certainement à l'âge de 17 ans, en ayant fumé un Pécos et avec un copain au bord de la route où on voyait passer les gens, on se moquait de la façon dont ils marchaient et ça nous faisait, chaque fois qu'ils faisaient un pas, ça me faisait bruit. Voilà, c'est le plus gros fou rire, peu aidé par une herbe magique, mais globalement, voilà, ça doit être ça, mon plus gros fou rire.
Ton idéal de bonheur terrestre?
Continuer à vivre.
Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence?
La maladresse.
Quelle qualité préfères-tu chez l'homme?
L'homme dans son ensemble?
Oui.
L'empathie.
Serais-tu capable de tuer quelqu'un?
Non.
Ta vertu préférée?
L'honnêteté.
Qui aurais aimé-tu être?
Oh, un grand comédien. Ouais. Un comédien comme Bouquet ou comme Pieplu, là, les Shadok, là, parce que je le regardais hier soir pour une prochaine lecture.
Mis à part la lâcheté, quel est ton plus grand défaut?
ma façon de m'habiller.
C'est un défaut, ça.
Je suis une catastrophe.
Quelle est la première chose qui t'attire chez l'autre sexe?
Ah, comme tous les mecs, hein. Les rondeurs.
Les rondeurs.
Ah ouais, même si elles sont petites. Même si elles sont. Même si elles sont petites, c'est beau. Voilà, non, les regards. Le regard des femmes, sont, regard des femmes. C'est renversant.
Quel est ton rêve de bonheur ?
Mon rêve de bonheur ? Je sais pas, tu m'as un peu dit ce que c'était le bonheur, de me demander ce que c'était le bonheur pour moi, mon rêve de bonheur. Aujourd'hui, ce serait, aujourd'hui, je vais être très simple, très, très pragmatique, ça serait peut-être de gagner de l'argent sans travailler, ouais, et pour pouvoir faire autre chose, quoi, pour pouvoir faire plus ma passion et couper du bois.
Beaucoup.
Voilà, beaucoup de bois.
Quel serait ton plus grand malheur?
Mon plus grand malheur, la guerre.
Pas que bon, détestes-tu par-dessus tout?
Que je déteste la malhonnêteté.
Quel don de la nature aimerais-tu avoir?
Les gens disent beaucoup le don d'ubiquité, mais bon, je ne sais pas trop. Le don de la nature, comprendre.
Très belle réponse.
Voilà.
Quel est l'état présent de ton esprit actuellement?
Là, maintenant? J'ai soif.
C'est ton esprit a soif?
Non, mon esprit, je suis content, je suis avec toi, on est dans un endroit sympathique, donc je suis plutôt serein, tranquille, voilà, il n'y a pas plus à dire.
Qu'est-ce que tu préfères en toi?
Ce que je préfère en moi? Ma voix.
Ta voix?
Ma voix, ouais.
Qu'est-ce que tu détestes?
Qu'est-ce que je déteste en ma gueule?
Quel est le plus grand moment de ta vie?
Le plus grand moment de ma vie? Malgré tout, et ça va être très désuet, c'est le jour où j'ai rencontré ma femme.
Très belle déclaration. Ouais. Et le pire moment?
Et le pire moment, c'est le moment où j'ai cru la perdre.
Très bien. Qu'est-ce qui te fait le plus rire dans la vie?
Je sais pas. Il y a plein de choses qui me font rire. Je vais pas les. J'ai des difficultés à le classer. Je pense que la maladresse, la clownerie, c'est quelque chose qui me fait rire ça parce que c'est très humain. Voilà, c'est tout ce qui est très humain.
Est-ce qui te fait le moins rire?
J'allais dire la malhonnêteté, non, la manipulation.
La manipulation.
L'antipathie, les gens qui n'ont pas d'empathie sur les autres, qui sont dans le noir ou le blanc, et il n'y a pas d'autre nuance que ça. Ça, c'est catastrophique. Le non, quoi, ceux qui disent non.
Quelle est ta plus belle histoire d'amour?
Oh, ben, c'est celle que je vis depuis 25 ans. Hein.
Ouais. Voilà. Et la pire?
Ah, la pire, oh là là, j'étais amoureux d'une fille, j'ai dû perdre 20 kilos, c'était pendant un festival d'Avignon, elle m'aimait pas du tout, et moi je l'adorais, et elle est partie, et j'avoue que là, j'ai pleuré, vrai chagrin à goût, où tu te tapes la tête contre les murs, ça c'est vrai, il paraît que ça, mais moi je vous le dis, ça existe, ah oui, les gens qui se tapent la tête contre les murs pour essayer de faire passer un chagrin d'amour.
Tu l'as vraiment frappé contre les
murs? Ah oui, il y avait la marque et tout.
Ta tête, hein, on est bien d'accord.
Hein?
On est bien d'accord, c'est ta tête dont tu parles.
Je parle de ma tête, pas la tête de la fille. Non, la fille, elle est partie.
Une autre partie.
Puis je l'ai oubliée.
Je l'ai oublié,
il y a très longtemps. Ouais.
Qu'est-ce que tu préfères dans le sexe?
Les préliminaires.
Les préliminaires. Est-ce que tu te dégoûtes?
Mais non, tout. J'aime tout dans le sexe. Je veux pas que les préliminaires.
Tout
que ça... Ah oui, jusqu'à la fin, moi j'aime tout. J'aime vraiment tout. Ah oui, vraiment tout.
Est-ce
oui,
qui te dégoûte?
Ah, dans le sexe, il n'y a pas de dégoût. Sinon, il n'y a pas de sexe.
D'accord.
S'il y a du dégoût, il n'y a pas de sexe forcément. Donc, non, il y a tout qui me plaît.
Il n'y a rien qui est rédhibitoire.
Ouais, sauf que je te dis que j'aurais du mal à coucher avec un mec, même si j'ai des amis homo. Il n'y a pas de souci, mais j'aurais du mal. Je peux embrasser un mec, je peux vraiment me coller à lui. Mais voilà, je ne suis pas. Bon, je ne vais pas me dire, à force de le dire, hein, c'est qu'il essaye de se justifier qu'il est pareil que peut-être qu'il est. Mais non, je ne sais pas. Voilà.
Très bien.
Mm-hmm. Elles sont bizarres, ta question.
Ah, c'est pas les miennes. Je m'en défausse.
Oui.
Donc, une question un peu à part. Est-ce que selon toi, il y a un monde ailleurs avec d'autres formes de vie?
Ah, les multivers, là, l'histoire des multivers, des univers parallèles, j'espère.
T'espères?
Ah ouais, j'espère. J'espère qu'il y a d'autres choses dans l'univers et qu'il y ait d'autres façons de penser, d'autres consciences. Parce que notre particularité, c'est d'avoir conscience de soi. Donc j'espère qu'il y a d'autres endroits où il y a des choses qui ont conscience de soi.
Selon toi, c'est la grande différence entre l'animal et
l'humain?
Non,
pas du tout. Non. Pas du tout. La grande différence, elle est peut-être pas là. Je pense qu'il paraît qu'il y a des animaux qui ont conscience d'eux.
Ah ouais, lesquels?
Ah ben, je sais pas, les animaux domestiques, etc. Ils ont conscience, ils ont des souffrances, ils ont. Alors après, est-ce qu'on peut parler la même chose avec les mêmes mots? Je pense que déjà les mots n'existent pas chez les animaux, donc c'est difficile de faire une analogie. Mais je crois qu'ils ont une conscience d'existence, ouais, tout à fait.
tout à fait, tout à fait. Alors, conscience dans l'univers, non. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire être conscient dans l'univers? Je ne sais pas.
Ouais. Donc, selon toi, il existe des vies ailleurs?
Ah non, je ne sais rien. Je l'espère. Je l'espère.
D'accord.
Mais c'est pour faire vivre.
Ton actualité, c'est quoi alors là?
Alors, mon actualité, c'est des lectures donc en février. Fin janvier, le 29 janvier, donc à Candela, donc au lieu de Candela à Pernes, avec les lectures des poèmes de Monsieur Benoît Magna, qui est un personnage très connu dans la région, un écolo, un homme politique et surtout un poète. Et puis au mois de février, je lis de nouveau l'Hérital de François Cavanna, magnifique travail avec deux musiciennes extraordinaires, Léa Lachat. Et je ne me rappelle plus l'autre.
C'est où ça se passe?
Alors ça, c'est à Ménherbe. Hein, et ici, dans la région, je lis Empateba, donc ce grand écrivain africain, à Bédouin. Mmh. Et je pense la deuxième à Jonquière. Voilà pour mon actualité de proximité.
De proximité.
Voilà. Voilà. D'accord. Bientôt.
Niveau sportif?
Au niveau sportif, le tour du château de Touzon, demain matin, certainement, avec mon chien.
Avec ton chien.
Voilà.
D'accord, très bien. Fred, comment tu te sens là?
Je me sens bien.
Tu te sens bien?
Ouais, 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 ouais.
Ça s'est bien passé pour toi l'émission?
Oui, oui, il y avait des questions très bizarres, très curieuses, mais ça m'a rappelé ma thérapie, mais ça a été pas mal.
Oui, un petit peu quand même.
Oui, quand même, oui. Je me suis senti un peu sondé.
Ah, oui, non, c'est pas l'objectif, tu le sais.
Oui, c'est pas l'objectif, mais je me suis quand même senti sondé. Non, mais j'espère que les gens vont pas s'ennuyer.
Non, absolument pas, non. Voilà. Non. Moi, ce que je tenais à te dire, c'est que bon, ça fait 10 ans qu'on se connaît.
Et oui, déjà 10 ans.
Déjà 10 ans qu'on se côtoie. Oh. On a eu de superbes expériences ensemble,
oui,
tous les deux. Notamment dans un clip vidéo.
Ah oui.
Qui s'appelait
il veut quelqu'un de bien.
Je suis quelqu'un
comme il te faut. Ouais.
Alors parle-moi un petit peu de ce clip.
Alors c'était un clip qu'on a voulu faire en prévision des élections de 2012 où on trouvait que le débat politique était trop sérieux et on avait envie de classer les gens dans des catégories de gens qui pouvaient être de l'extrême droite à l'extrême gauche avec des personnages totalement clownesques et puis très très maladroits dans leur affaire parce qu'ils n'arrivent pas à garder leurs femmes qui regardent ailleurs. Est très absurde, voilà. Mais la grande idée, c'est on fait de la politique pour être regardé par les femmes, mais c'est pas la bonne solution.
C'est quoi la bonne solution alors, en ce cas-là?
C'est les aimer, je te l'ai dit tout à l'heure.
Oui, oui,
j'écoute rien de ce que je dis. J'écoute rien. C'est les aimer, c'est ça qui est important.
Oui, oui, non, mais ça, si, j'essaye. Je fais le maximum. Tous les jours.
C'est
vraiment le maximum.
Et j'avoue que tu avais une très très belle musique et une très belle chanson, et c'est la première fois que j'ai chanté de ma vie, et c'était très intéressant comme expérience. Je suis quelqu'un comme il te faut, c'est sur YouTube toujours. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Il y a plein de choses d'actualité encore.
Oui, il y a quelque chose d'assez moderne et de frais. Quoi.
Tout
ça,
à fait.
Ça vieillit pas trop.
Ça n'a pas trop vieilli finalement. Hein.
C'est un peu, peut-être un petit peu intellectuel. On ne voit pas trop le 3 ou 4e degré qu'on a essayé de mettre en place dessus.
Ah, pourtant.
Il y en a du degré.
Hein. Oui, il y en a du degré. Ouais.
Il y en a du degré. Ouais. Donc nous sommes en 2017.
Oui.
Quel est ton vœu que tu pourrais faire aux auditeurs pour cette nouvelle année qui commence?
Plein de bonheur, plein de créations, que vous soyez artiste, peintre ou artiste. Soyez créatif dans votre travail, soyez créatif dans votre vie. Créez des choses, soyez curieux de ce qui se passe. Soyez à l'écoute des autres, soyez dans l'empathie avec les autres personnes. Ne les jugez pas directement, ne les jugez pas globalement, essayez de vivre ensemble et tant pis pour les défauts des uns et des autres.
Alors, chers auditeurs, je vais à mon tour vous souhaiter mes vœux. Je vous souhaite que cette nouvelle année qui s'annonce soit pour vous débordante d'énergie positive, de saveurs irradiantes et de joie profonde, de couleurs harmonieuses tout aussi saisissantes au rythme de la vie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de S'étirer par les oreilles. Merci Fred.
Merci.
Infiniment.
Merci à toi Thierry, c'était très intéressant. C'était très intéressant.
Oh oui. Merci à Willy pour la technique. Le générique de l'émission est...
Willy n'est pas un chien, Willy est le technicien.
Willy n'est pas un chien et il est un super technicien. Le générique de l'émission, c'est I'm So Electric de Chris Joss. Chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour la 11e émission de S'étirer par les oreilles. Au revoir.
Au revoir.